Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ici, dans Ça commence par nous, on vous donne des pistes pour changer le monde un petit peu tous les jours. Promis, hein, pas de blabla, à la fin de l'émission, vous aurez tout un tas de solutions à mettre en place tout de suite et sans contrainte pour agir au quotidien. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, celui de l'accueil des réfugiés. On en parle pourtant de moins en moins ces derniers mois dans la presse, alors que le sujet il reste prioritaire. L'année dernière, la France a enregistré un peu plus de 100 000 demandes d'asile. Il y a actuellement une loi asile et immigration qui est entrée en préparation et qui fait pas mal de bruit. Mais nous, aujourd'hui, on veut pas rentrer dans le débat. On va plutôt donner la parole à ceux qui se bougent pour montrer qu'il existe plein de beaux projets qui travaillent tous les jours à faciliter l'accueil des migrants. Car oui, en France, il existe tout un tas d'associations qui font un boulot extraordinaire. Il y a des belles histoires d'intégration qui méritent d'être racontées. Et c'est ce que nous allons faire avec nos invités. Nous aurons avec nous Gaël Manzi d'Utopia 56. Nous aurons Roula Chassavard de Singa. Et enfin, Laura Duret du Réchaud. Sur le plateau avec moi, il y a Hélène Dédény pour nous parler de Zéro Déchet. Et Anne-Sophie de OneArt qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Aujourd'hui, on vous parle de comment faciliter l'accueil des migrants et on accueille tout de suite Gaël Manzi de l'association Utopia 56. Bonjour Gaël.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
On va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet et pour que tu nous parles des missions d'Utopia 56. Avant, je voulais juste que tu nous dises, là, comme je le disais en introduction, on parle de moins en moins des réfugiés dans la presse. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que cette situation est sur le point d'être résolue ou au contraire, on devrait plus s'y attarder ?
Je pense qu'on en parle moins, mais c'est de pire en pire. Clairement, c'est ce qu'on voit, les conditions se dégradent sur le terrain. Que ce soit à Paris, à Calais ou même dans diverses régions de France, les gens sont en très grande précarité. Ouais.
Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Quels sont les exemples concrets que tu peux nous remonter du terrain, vous qui y êtes en permanence ?
Les destructions de matériel à Calais continuent tous les jours. La précarité dans laquelle les personnes vivent continue. Il y a des démantèlements à peu près une à deux fois par semaine à Calais. La bulle a fermé à Paris, donc les personnes vulnérables, les gens qui s'orientaient via cette bulle, sont à la rue aujourd'hui et ont aucun accès à une aide quelconque à part celle organisée par les collectifs et les associations qui leur viennent en aide sur le terrain.
Tu penses que c'est une certaine manière, on s'habitue un peu à la situation et donc du coup, on abandonne ?
Alors je sais que de notre côté, nous, on n'abandonne pas, mais par contre, on se demande bien jusqu'où ça va aller parce qu'il y a quand même des personnes qui meurent. Aux frontières de l'Italie, il y a des personnes qui meurent à Calais, il y a des gens qui vivent dans des conditions qui sont complètement inhumaines. Dans le pays des droits de l'homme, ça ne devrait pas exister en fait.
Et vous, justement, Utopia 56, comment s'est née cette idée de créer cette association, ce mouvement, et quelles sont concrètement vos actions ?
On s'est créé au moment où il y a la photo du jeune Eli sur la plage, en fait, comme beaucoup d'associations et de collectifs qui se sont créés à ce moment-là. C'est parti de mon petit frère, en fait, qui voit la jungle de Calais à la télé et qui dit à mon père pourquoi tu te bouges pas, en fait. Et mon père qui sait pas quoi répondre. Et du coup, on est venu à Calais dans une autre association, on a essayé d'apporter notre aide comme on pouvait. On s'est rendu compte qu'il y avait très peu de bénévoles français qui étaient mobilisés. Et on s'est dit que, on a essayé de mobiliser du monde autour de nous pour venir en aide aux réfugiés. Et c'est là que Utopia est né. À la base, on nettoyait la jungle, on s'occupait de nettoyer les déchets. C'était un des bidonvilles les plus sales d'Europe. Il n'y avait aucun ramassage organisé par la ville et par qui que ce soit, c'était ignoble. Très vite, on a commencé à donner des cours aussi dans l'école du chemin des dunes, à donner des coups de main dans la cuisine, dans la Belgium Kitchen, ça s'appelait. Et suite à ça, on a eu la coordination association du camp de Grande-Synthe, et puis implication de nouveau à Paris et à les régions qui s'ouvrent, etc., etc.
Donc au tout début, une révolte, on allait se mettre à disposition pour aider les actions qui étaient déjà en place et puis petit à petit créer un mouvement qui est maintenant dans plusieurs villes.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est une réalité pour beaucoup de monde. En fait, quand on a vu comment ces personnes vivent, dans quelles conditions elles vivent, bah on peut plus fermer les yeux en fait, tout simplement. Quand on a vu ça, il y a un moment donné, c'est juste affligeant. Ouais. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des hommes qui sont laissés à la dérive et avec qui on joue avec leur vie à cause du règlement de Dublin et auquel on n'apporte aucune solution, quoi. Donc c'est un problème politique et nous on met un pansement sur une plaie béante et on essaye de faire comme on peut tous les jours en faisant des distributions alimentaires, vestimentaires, accès aux soins, information, hébergement, tout ce qu'on peut en fait. Mais c'est une goutte d'eau dans un... On serait capable d'accueillir, il n'y a pas un si grand nombre de personnes qui sont à la rue en fait et on est capable de les accueillir mais il y a une volonté politique de ne pas les accueillir.
Ouais, on est en train de toucher les limites de la radio là, parce que du coup, les gens ils peuvent pas voir ta révolte qui se lit sur ton visage. Ça fait pourtant longtemps que tu fais ça.
Je sais plus trop. Ça fait plus de 2 ans et demi, ouais, qu'on est sur le terrain tous les jours, ouais. On est parti, on était très peu nombreux au début, et puis maintenant on est. Si j'ai les chiffres, je crois qu'on est 8700 adhérents pour cette année. On est une 150 personnes journaliers qui se démènent sur le terrain et qui tournent pour venir en aide, voire plus, je sais même pas.
Avec des actions très 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 concrètes.
Des actions concrètes, mais qui sont complètement différentes en fonction des régions, parce que les problématiques sont complètement différentes. Donc à Calais, c'est plus de la distribution alimentaire, vestimentaire, accès aux soins, accès à l'information, plaidoyer surtout aussi beaucoup pour essayer de mettre en face les pouvoirs publics. Pour qu'ils prennent responsabilité. À Paris, c'est plus de l'hébergement pour les personnes vulnérables, pour les mineurs, pour les familles et pour les hommes seuls. Et ça dépend vraiment des régions, en fait, où il y a des problématiques qui sont complètement différentes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de mineurs qui vivent à la rue et de familles et d'hommes seuls qui sont à la dérive et qu'on ne sait plus comment aider, en fait.
Ouais, donc à Paris, on entend souvent parler. Effectivement, il y avait la bulle de Porte de la Chapelle qui est en train d'être fermée, mais vous n'êtes pas concentré qu'à Paris ni qu'à Calais d'ailleurs.
Non.
Vous avez d'autres actions à...
Y a des actions à Tours où ils s'occupent essentiellement des mineurs, en Bretagne, à Lyon, à Lille, où il y a un beau pôle aussi, un petit peu partout en France.
Ouais. Ouais. Et quelles sont les urgences actuellement ? Moi, quand j'étais intervenu pour votre assaut à la bulle, c'était essentiellement de la distribution de nourriture, distribution de vêtements, distribution de sacs de couchage. Est-ce que cette réalité-là, elle a changé ? Est-ce que le fait qu'on rentre dans les beaux jours change aussi ces dynamiques ?
À l'heure actuelle, Utopia, on ne travaille plus dans la bulle.
Ouais.
Pour les mêmes raisons qu'on ne travaillait plus, on est parti de Grande-Synthe, en fait. C'est que des bonnes choses mises en place par des maires, en fait, mais se font très vite rattraper par la politique du gouvernement et derrière, en fait, on fond des centres de tri, en fait, ce qui est juste ignoble, en fait. Le camp de la Chapelle, ça devait être un camp d'accueil libre, comme le camp de Grande-Synthe. Et en fait, l'État a repris la main dessus et on a fait des choses inhumaines. On va dire les choses comme ça. Nos actions, essentiellement à Paris, sont sur de l'hébergement des familles qui sortent des dispositifs tous les soirs et qui sont à la rue, des mineurs aussi. Et surtout du plaidoyer aussi pour essayer de faire bouger les choses. Ouais.
Et nous, on le disait au tout début de l'émission, on veut donner des solutions à toutes les personnes qui nous écoutent et qui partagent ta révolte et qui disent « Mais attends, moi j'ai envie d'agir et j'ai pas l'impression de faire suffisamment de choses. » Qu'est-ce que toi tu peux leur dire à ces gens-là ? Quels sont les besoins d'Utopia ? Et comment ils peuvent vous filer un coup de main ?
Je pense qu'on peut venir sur le terrain via Utopia en aidant, en devenant hébergeur ou en venant sur le terrain concrètement ou en participant financièrement si on peut pas avoir du temps. Il n'y a pas qu'Utopia aussi sur le terrain. Il y a beaucoup de collectifs et d'associations qui en viennent en aide tous les jours, partout en France. Et je pense qu'il faut essayer de faire bouger l'opinion publique sur un vrai accueil en France parce que c'est que ça qui fera que les choses bougeront. Et il faut que les gens se mobilisent et se rendent compte d'eux-mêmes, en fait, et viennent sur le terrain pour voir dans quelles conditions vivent ces enfants et ces familles et toutes ces personnes, en fait.
Ouais, il n'y a que la réalité du terrain qui peut nous faire prendre conscience de ça. Et ensuite, une fois que c'est clair, une fois que c'est face à nous, devant nos yeux, on en ressort plus intact. Hein.
Ah non, ça c'est sûr. Quand on a vu des enfants de 14 ans se faire gazer ou se faire frapper à Calais, des personnes et des familles se faire déloger à Paris alors qu'ils ont juste une tente, dans le pays des droits de l'homme, quand on a vu ça, ouais, on se dit qu'il faut s'engager et qu'il faut qu'on se bouge, parce que sinon on sera jugé pour ce qu'on fait, en fait, tout simplement.
Redis-nous les moyens de contacter ou de découvrir les activités d'Utopia, s'il te plaît.
Il y a le site internet utopia56.com et sur les réseaux sociaux aussi, vous pouvez nous trouver, il n'y a pas de problème.
Allez, génial. Merci pour cette première présentation, Gaëlle. Merci pour la présentation d'émission d'Utopia. Merci pour cette introduction au sujet. Nous, on te retrouve tout à l'heure pour le débrief. Je le redonne quand même pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de le noter. Utopia56.com. Et on vous donnera bien évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
De retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est simple, positif et concret. Et c'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Aujourd'hui, on vous donne plein de pistes pour participer à votre échelle à l'amélioration de l'accueil des réfugiés en France.
Ça commence par nous.
Voilà, bonjour, vous êtes le créateur des lettres persanes, vous avez été récemment élu membre du conseil d'administration de Singa, et enfin vous êtes un ancien incubé de Finkela, l'incubateur de l'association, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va bien, merci.
Ça va. Avant que vous nous présentiez votre parcours hyper intéressant, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, justement Singa, qu'est-ce qu'ils font pour ceux qui ne les connaissent pas s'il vous plaît ?
Singa en Swahili, c'est-à-dire le lien. Et c'est le corps des activités de Singa, c'est-à-dire que là tout à l'heure on a parlé de l'accueil des personnes réfugiées, des gens qui sont dans la rue, mais c'est le côté visible de ce phénomène. Mais il y a un côté invisible, c'est-à-dire que là aujourd'hui on a plus de 200 personnes statutaires réfugiées qui sont là depuis des années. C'est pas la vague récente, mais ils sont marginalisés, ils ont pas en fait dans la société, on peut pas créer des liens. On a eu une étude selon laquelle seulement 13% de ces gens-là ont un ami français en lien avec une personne française. Et les fondateurs, les trois jeunes fondateurs de Singa se sont rendus compte de ce problème et ils se sont dit, il faut réfléchir à l'étape suivante, c'est-à-dire comment on peut donner une chance égale à ce genre-là qui sont nos amis parce qu'ils étaient confrontés par les problèmes de leurs amis, des personnes réfugiées à la fac. Ils étaient des étudiants à 25 ans et ils ont créé Singa pour créer des liens, pour mettre en contact les personnes réfugiées et les citoyens en France, on peut dire.
Donc oui, forcément, on en parlait tout à l'heure, Gaëlle, il y a un accueil inconditionnel qui doit être fait pour proposer à tous ceux qui rejoignent la France une vie décente. Et à la fois, au-delà de ça, il y a cette création d'un réseau humain qui va permettre aussi d'intégrer ces gens à la société.
Tout à fait, parce que les gens, on se demande pourquoi il y a autant de personnes qui vont à Calais, qui veulent aller en Angleterre, qui ne veulent pas rester en France, parce que il y a cette réputation que la France n'est pas accueillante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas intégrer dans la société française. C'est inimaginable d'avoir un maire ou une mère d'origine algérienne à Paris, aujourd'hui, alors qu'à Londres, on a un maire d'origine pakistanais. Et heureusement, on a une mère d'origine espagnole qui est une fille d'une réfugiée, d'une famille réfugiée. Et on ne met pas en avant tout cela. Et du coup, il faut réfléchir à la condition pour intégrer les personnes réfugiées, parce que en grande partie ce sont des personnes de talent, ce sont des chercheurs, des ingénieurs, des musiciens, des artistes, des écrivains, et normalement ce sont ce genre-là des personnes réfugiées, surtout des réfugiés politiques. Et alors qu'on n'en profite pas, eux-mêmes ils profitent pas de leur vie. Les 10 premières années d'une personne réfugiée, ce sont des années perdues. Ils n'ont pas des amis, ils ont, à part leur groupe très fermé, des copains de même origine de pays, ils ne s'intègrent pas tout court. Ouais.
Et une des convictions des fondateurs de Singa, c'est que l'entrepreneuriat, il peut être aussi une des solutions pour faciliter l'accueil des réfugiés, notamment donc avec ce fameux projet d'incubateur Finkela. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Finkela, c'est un incubateur Tout d'abord, c'était un incubateur pour les personnes réfugiées qui amènent un projet professionnel dans leur domaine. Après, c'est beaucoup développé, mais c'était parce que les fondateurs de Singa, les trois étudiants, Nathanaël, Guillaume et Alice, avaient des amis, des personnes réfugiées, de talent, mais qui faisaient même des études ensemble, parfois. Mais quand on arrive à la vie professionnelle, eux, ils n'étaient pas réussis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de capital social, ils n'avaient pas de réseau, et du coup, ils restaient. Ils avaient problème pour la réussite dans leur vie professionnelle. Et eux, ils se sont dit que on va créer. Rassembler nos moyens, nos capitaux sociaux pour aider nos amis. Et c'est comme ça que Finkella s'est développé, Singa s'est développé, et le corps de cet incubateur n'est pas ce n'est pas un incubateur classique. C'est toujours pour créer des liens avec des gens. Par exemple, il y a une personne réfugiée qui monte un projet, en l'occurrence moi-même. Et moi, j'ai besoin de s'intégrer dans le milieu journalistique parce que je suis journaliste, mais je connais pas des journalistes en France. Ou alors, j'ai pas assez de compétences dans l'écriture parce que il se trouve que le français est une langue super compliquée, est une langue magnifique, mais compliquée, difficile. Et moi, j'arrive en France, je ne sais pas un mot à parler, écrire en français. Il faut que j'apprends le français.
Vous êtes arrivé en France il y a 7 ans, si je dis pas de bêtises.
Je suis arrivé en France en 2009, en 3 novembre de 2009. Je ne suis pas arrivé par la mer ni par les montagnes. Je suis arrivé en avion à l'aéroport Charles de Gaulle. Et du coup, je dis ça, je fais exprès de dire ça parce qu'on a une image de misérabilisme que voilà, des personnes réfugiées, ils arrivent toujours quand vous tapez sur Google et vous cherchez le mot réfugié, vous voyez des bateaux avec 15 hommes dans un bateau. Oui, c'est la vérité. C'est vrai que c'est la vérité. Il faut l'accepter. Mais une grande partie de la vérité, ce n'est pas ça. Il y a des gens qui arrivent en France pour le projet. Et du coup, moi aussi, je suis arrivé en France en 2009, fin 2009. Et vous avez
créé avec du coup l'appui de Singa, de cet incubateur,
des années après. Parce que oui, il n'y avait pas des initiatives comme ça. Et moi, je l'ai trouvé complètement par hasard. Et c'était au moment où Singa prenait un ampleur. Et moi, j'ai vu un momentum en France, dans la jeune génération française. Et je veux rester optimiste. Et j'ai vu à ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 2015-2014, j'ai ressenti un momentum en France, c'est-à-dire comme quoi il y a une vague de conscience en France des jeunes personnes qui s'engagent dans la société. Et là, c'était à ce moment-là que j'ai rencontré Singa. Et c'était vraiment une phase très très importante dans le développement de mon projet.
Qui s'appelle Les Lettres Persanes.
Qui s'appelle Les Lettres Persanes, qui est un média spécialiste de l'Iran. Et en résumé, c'est courrier international, mais spécifiquement sur l'Iran. Parce que quand je suis arrivé en France, même si j'étais un exilé politique, mais l'image de l'Iran dans les médias, c'était pas l'Iran que j'ai vécu, et c'était très très centré sur les horreurs, c'est-à-dire soit une image très exotique, soit une image très négative. Alors que le corps de la société iranienne, est une société vivante. Il y a des artistes, vous voyez des films iraniens, vous voyez la musique iranienne, la poésie, la culture est présente dans la vie quotidienne des Iraniens. Oui, il y a des problèmes politiques aussi, mais ça ne fait pas partie de toute la vérité en Iran.
Et pour participer, vous, au rééquilibrage de cette image de l'Iran, vous allez notamment organiser, là, dans les prochains jours, un festival.
Oui, du 7 au, au 14 avril, nous allons vivre une semaine culturelle 10 par an à Paris. Et notre slogan, c'est faire vivre Paris au rythme d'Ispahan. Ispahan qui est la capitale culturelle de l'Iran, une ville magnifique que j'adore. Je ne suis pas d'Ispahan, mais j'adore Ispahan. Et il y a 37 événements culturels autour de la gastronomie, de la musique, du cinéma, de la, du tapis, de la poésie, de la poésie, de la poésie, parce que la poésie est très importante dans la vie des Iraniens. Et il y a 39 organisations françaises et iraniennes qui se sont réunies pour faire cette magnifique semaine d'Ispahan à Paris.
Génial, merci beaucoup Rouhollah pour cette exemplarité fascinante. Bravo pour votre parcours, bravo pour cette organisation de cette semaine pour aller découvrir les trésors d'Ispahan. On a compris qu'il y avait beaucoup de poésie. On vous donnera, nous, toutes les informations, bien entendu, sur notre groupe Facebook. Si vous êtes intéressé par les informations plus précises sur Singa, je vous redonne quand même le site internet. C'est www.singa.com. Merci Rouhollah.
Merci.
Allez, tout de suite, une première pause musicale. On retrouvera Rouhollah tout à l'heure et juste après, on aura Hélène Dédény pour son Focus Zéro Déchet. À tout de suite.
Conversation au coin du bar. La nuit s'invite entre nous deux, balayant la salle d'un regard. Vais-je enfin tomber amoureux? Tu parles vite, tes mains aussi, et je suis pendu à tes lèvres. Tu es l'élite de mes envies. Serais-tu la fille de mes rêves? Sonne creux, je ne finirai pas seul ce soir. Mes regrets ne meurent jamais vieux. La lune disparaît, il est temps. Mes pas dans le sable te suivent. Mon esprit a foutu le camp, laissant mon corps à la dérive. Laissant mon corps à la dérive.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous. Tout de suite, c'est le moment zéro déchet tant attendu. Je laisse le micro à Hélène, la fondatrice d'Edeni, le Zero Waste Positif. Salut Hélène.
Bonjour Julien.
De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Eh bien, je le répéterai jamais assez, le zéro waste, c'est donc le zéro déchet, mais aussi le zéro gâchis. Et le zéro gâchis concerne aussi les êtres humains. Ne pas gâcher notre potentiel, ne pas gâcher ce qui fait notre humanité et la beauté de la vie. Et donc, ce qui est valable pour la biodiversité en général est valable évidemment pour les humains et a fortiori les plus faibles et ceux qui souffrent le plus. Et donc aujourd'hui, les réfugiés, qu'ils arrivent en avion, qu'ils arrivent en bateau, peu importe les conditions dans lesquelles ils viennent, il faut savoir que quitter son pays, tout quitter, c'est toujours une déchirure. Et on ne le fait pas pour le plaisir, uniquement pour des questions économiques. Et c'est vraiment important de le rappeler. C'est toujours une souffrance, un déchirement. Et donc, le moins qu'on puisse faire, c'est d'essayer de comprendre et de soulager aussi cette déchirure.
Ça, c'est dit.
Voilà, ça va être une chronique, vous me connaissez, chronique toujours qui ne mâche pas ses mots. Et aujourd'hui, ce sujet me touche particulièrement parce que chez Edeni, on essaie d'avoir un rôle important de transmission des savoirs de manière transversale pour rassembler toutes les causes qu'on estime justes, qu'on estime contribuer significativement à un monde meilleur, sans en exclure l'une de l'autre. Bien souvent, on va nous dire, et le zéro déchet, on peut avoir aussi cette critique de dire « oui, mais bon, c'est pas le plus important, il y a des choses plus importantes ». Et les féministes vont dire « oui, mais non, mais le plus important, c'est le droit des femmes ». Et un tel vont dire « oui, mais non, le droit des pandas, c'est le plus important ». En fait, il faut arrêter de tout exclure et de tout opposer et de dire bah, finalement, nous, on a déjà des SDF en France, donc on ne va pas s'occuper des réfugiés ou on ne va pas s'occuper des réfugiés parce qu'autre chose. Non, essayons de faire bien et non pas un peu mieux et de ne pas exclure les causes. Chacun va, de par son histoire, de par tout ce qu'il a vécu, être plus touché ou avoir des compétences qui vont être plus nécessaires dans une cause ou dans une autre. Ce qui est important, c'est de pouvoir accepter le caractère holistique de tout ça et du fait qu'on ne résoudra pas nos problèmes de société juste en s'attaquant à une chose en particulier et en laissant tout le reste de côté, parce que bien souvent, on peut améliorer drastiquement un indicateur tandis qu'on va baisser tous les autres.
Et qu'est-ce que tu nous conseilles alors, toi ?
Eh ben, ce que je vous conseille, c'est vraiment de pouvoir lier tout et de vous dire, ok, moi, si j'ai une cause qui me touche particulièrement, eh ben, je vais essayer de la découvrir et de m'intéresser suivant divers sources, que ce soit les associations, que ce soit qu'est-ce qu'en dit l'institutionnel, qu'est-ce qu'en disent les entreprises. Et ce qui m'a beaucoup touchée quand j'étais en Argentine et que j'ai lancé l'association Edeni, c'est de pouvoir donner ces ateliers d'abord dans les bidonvilles, dans ce qu'on appelle les VIJAS. Et le Zero Waste, ça parle à tous, c'est quelque chose de très concret. Et même si aujourd'hui, le Bootcamp Edeni fonctionne dans Paris sans subvention et qu'il a besoin donc de ressources qui de facto limitent le public, c'est aussi un parti pris de se dire on va essayer de faire bouger les gens qui ont le plus de pouvoir actuellement et qui pourraient faire influer les choses un petit peu plus bas, mais aussi de se dire ça concerne pas que les bobos parisiens, les nantis, mais ça concerne tout le monde. Moi, au début, j'ai pris le parti en Argentine, quand je travaillais pour le gouvernement et d'autres associations, d'aller dans les bidonvilles avec la conviction de se dire que le vivre moins avec mieux n'est pas réservé à ceux qui ont tout, mais au contraire à toutes et à tous. Il y a beaucoup de réfugiés ou immigrés paraguayens, boliviens et vénézuéliens dans les VIJAS d'Argentine, c'est le nom qu'on donne aux bidonvilles, donc, qui sont nichés parfois en plein cœur de ville, comme à Buenos Aires. Et moi, vraiment, ça me fend le cœur de voir ces enfants malnutris, souvent obèses, très jeunes, boire une canette de coca paille aux lèvres dès 9h du matin en guise de petit déjeuner. Et de mettre de côté pour s'offrir un maillot de foot à 70€. Parce que oui, nous, on a un pouvoir, tous, autant que nous sommes, de donner l'exemple aussi quand on se considère des dites castes supérieures ou que nous sommes un publicitaire ou d'autres influenceurs médias, de ne pas montrer l'exemple d'une voie de développement de surconsommation de plastique et de marque à tout va. Ça paraît normal qu'une fois qu'on a tout ça en exemple, on aspire majoritairement à l'exemple qui nous est donné. Or, les burn-out, l'obésité, les perturbateurs endocriniens et les dépressions que ces modes de consommation ont entraînés sont rarement mis en avant. Les publications Instagram ne reflètent pas la réalité, pas plus que les défis d'ailleurs de biodiversité et d'exploitation des ressources qui ne sont pas vraiment palpables. En revanche, les symptômes de tout cela, qui sont nos déchets, eux sont bien palpables et nous défavorisent toutes et tous via les maladies liées à la pollution et l'effondrement de l'anthropocène. Mais surtout, ils touchent directement les réfugiés, les immigrés et toutes celles et ceux qui sont aux abords de ces décharges, qui les prennent en pleine face, qui s'occupent de ces déchets qu'on ne saurait voir. C'est toujours les plus pauvres qu'on exclut du vivre bien et qui sont exposés à nos poubelles. Alors oui, le vivre mieux avec moins concerne tout le monde. Et si les ressources sont mal distribuées en haut, ce n'est pas pour ça qu'il faut accepter que le plastique, la malbouffe et la malconso soient l'unique option des plus démunis et le zero waste l'apanage exclusif des plus nantis. Au contraire, quand on est nanti, la moindre des choses, c'est d'éviter de générer des déchets pour pas que justement ça puisse se répercuter sur les plus pauvres. Et ça, ça doit être accessible à toutes et à tous, c'est une évidence. Donc si jamais vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ou voilà, vous ne vous sentez pas de vous investir dans une association qui aide les réfugiés, vous pouvez de diverses autres manières participer à une société plus juste, plus équilibré et surtout à ne pas générer d'impact qui, in fine, va encore une fois défavoriser les plus pauvres et les plus démunis. Et le zéro déchet en fait partie. Donc apprenons à utiliser nos ressources avec parcimonie, uniquement ce dont on a besoin et surtout à montrer l'exemple. Parce que oui, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, que ce soit pour le plastique, que ce soit pour notre consommation nutritionnelle, pour nos habits, pour nos vêtements, mais aussi pour nos relations humaines.
Et ben voilà, à méditer. Hein. Effectivement, il y a différents niveaux d'action, ça c'est très clair. Nous, aujourd'hui, hein, on vous parle de comment faciliter l'accueil des réfugiés et on continue sur notre lancée. On accueille tout de suite Laura Duret qui vient nous présenter les actions du Réchaud. Bonjour Laura.
Bonjour Julien.
Vous, votre leitmotiv, c'est « Cuisinons ensemble pour restaurer le monde ».
Voilà, exactement. Restaurer dans les deux sens du terme, à savoir restaurer dans le sens manger, mais manger des bonnes choses dans la convivialité et la bienveillance. Et restaurer aussi parce que, et là c'est l'origine de la création du Réchaud, le Réchaud a été fondé par Vanessa Krisev et Elodie Huet, qui sont toutes les deux chefs cuisinières. Et elles avaient conscience, comme beaucoup de monde, de cette crise de l'accueil des réfugiés qui les marquait, et elles ont voulu faire quelque chose. Et donc elles ont choisi de mobiliser leurs compétences de chef pour mettre en place des ateliers cuisine dans les centres d'accueil de réfugiés, dans les camps de migrants, pour justement restaurer un meilleur accueil au travers de la table, tout simplement parce que qu'est-ce qu'il y a de mieux pour accueillir quelqu'un que de lui offrir sa gastronomie et de se réunir autour d'une table.
Et quoi de plus universel aussi, hein, finalement, ça passe la cuisine, c'est un langage qui n'a pas besoin de mots, hein, on est d'accord.
Exactement.
Et puis c'est aussi ce moment, comme tu le disais, d'accueil, de bonheur, de partager des choses simples.
Voilà, exactement. L'ADN du Réchaud, il est vraiment dans l'échange, la bienveillance et le partage. Là, en fait, tu as dit tous ces mots juste
dans
avant.
Dans le désordre,
mais tu les as dit. On souhaite vraiment que les personnes arrivantes, donc les réfugiés et les migrants, et les personnes, les populations locales en France et en Europe, parce qu'on intervient aussi en Europe, se voient différemment et se rencontrent autrement en échangeant par le biais d'abord du repas préparé, puisque le principe de nos ateliers cuisine, c'est de faire se rencontrer les gens dans la préparation du repas, dans l'échange de recettes, et comme tu le disais, le repas est un langage universel, il n'y a pas forcément besoin d'échanger ou de parler la même langue pour cuisiner ensemble. On sent, on touche, on goûte, et du coup, il y a ce langage non-verbal qui se crée.
Qu'est-ce qu'on aime aussi, goûter de nouvelles choses, voilà, de nouvelles
tout à
saveurs,
tout
la diversité en cuisine.
Et c'est pour ça que le Réchaud a aussi cette petite identité un peu cuisine fusion, bah, qui fait que voilà, quand on intervient dans le nord de la France, notre aventure a commencé à Grande-Synthe. Quand tu fais se rencontrer la cuisine pakistanaise et des ingrédients du nord de la France, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec des producteurs locaux en bio, on essaye de faire très attention à tout notre sourcing quand on organise les ateliers. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la rencontre de ces terroirs et de ces recettes qui auraient pu ne jamais se rencontrer.
Et donc concrètement, les dernières activités phares du Réchaud, ça donne quoi ?
Alors, le Réchaud est intervenu l'année dernière. On a fait plusieurs actions. Alors là, pour le coup, je disais qu'on était aussi à l'étranger. On est intervenu en Belgique 3 semaines l'été dernier. En fait, dans chacune des régions administratives. Donc, on est intervenu dans des centres d'accueil de réfugiés où on organisait chaque jour, chaque après-midi, on organisait un atelier qu'on thématise à chaque fois pour permettre aux personnes qui souhaitent venir cuisiner, bah, voilà, de s'exprimer, enfin d'exprimer leur créativité culinaire sous différentes façons. Donc on peut avoir une thématique street food, une thématique les farcis. Donc voilà, on va avoir des petits légumes farcis, des choses comme ça. Voilà, ce sont des recettes qui sont faciles à décliner.
Et le public est divers.
Alors le public, donc ce sont à la fois les personnes qui sont hébergées voilà sur le camp et des personnes des localités autour, donc que ce soit des personnes qui sont déjà dans l'associatif habituellement ou voilà des personnes qui ont envie de venir à la rencontre. Nous, c'est l'objectif du réchaud, c'est vraiment ça, c'est de favoriser la rencontre. Et on se place un petit peu comme étant, quand on intervient quelque part, on se place comme un préalable à l'intégration. On ne fait pas à proprement parler de l'intégration parce que ce n'est pas notre vocation. Mais on se place comme un préalable à l'intégration. Pourquoi ? Parce qu'on va permettre la rencontre entre des personnes qui, si elles n'avaient pas fait l'effort, à travers ce qu'on organise, de venir au même endroit pour partager une activité, ne se serait peut-être jamais rencontré. Et donc, ce qui fait que, voilà, là, on réunit des personnes autour de la cuisine, mais une fois qu'on sera parti, les personnes qui sont dans le camp de réfugiés vont peut-être nous aider, auront peut-être noué des liens avec ces personnes venues de l'extérieur du camp, qui, elles, sont peut-être dans un domaine d'activité en particulier, qui sont dans une association de lecture ou une association d'alphabétisation. Et donc, en fait, voilà, on crée des connexions et c'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup en amont avec les associations locales et les collectivités quand il s'agit, enfin voilà, quand les collectivités sont impliquées, pour que une fois qu'on est parti sur d'autres missions, que notre passage ait servi à quelque chose et qu'il y ait quelque chose qui reste et qui finalement, voilà, qui ensuite est entretenu par les personnes qui sont...
La boucle est bouclée, je me disais juste, c'est rigolo parce que du coup Gaëlle disait tout à l'heure, oui, il faut qu'on se rencontre avec les différents publics et c'est ça la condition sine qua non à l'amélioration de l'accueil. Toi Roux, vous nous disiez tout à l'heure, mais il faut aussi créer ce réseau et c'est hyper important et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Ma dernière question, c'est passionnant ce que tu es en train de dire. Laura, c'est là pour 2018, quels sont vos gros chantiers et là où les gens qui nous écoutent se disent « Oh mais attends, ça a l'air trop bien, comment ils peuvent vous aider ?»
Alors, donc, comme gros chantier, on a donc un gros projet qui est en phase de préparation pour le mois d'octobre avec la ville d'Arras. Donc voilà, ce sera quelque chose d'inédit, un restaurant éphémère qui sera installé pendant 15 jours sur la ville, où on fédère, comme je viens de le dire, on fédère vraiment tout le tissu local, associatif, producteur, etc. Pour pouvoir monter ce projet, on a besoin de beaucoup de financement. Donc là, à très courte échéance, on a deux choses. Lundi soir, à Paris, au Théâtre 14, il y aura une représentation exceptionnelle de Hamlet, mis en scène par Xavier Lemaire et la compagnie Les Larrons. Cette pièce sera jouée au profit du Réchaud. Donc vous pouvez aller sur le site internet du Réchaud, www.lereschaud.org. Vous trouverez le lien pour réserver vos places, sachant que c'est considéré comme un don. Donc vous pouvez défiscaliser une partie de votre achat. Et également, on est en concours dans un appel à projet. Donc vous trouverez également le lien sur notre site internet pour nous soutenir. On a besoin de nombreux votes pour se qualifier.
Merci beaucoup Laura, c'était passionnant. Nous on te retrouve tout à l'heure pour le débrief. Je redonne le site internet du Réchaud, c'est lereschaud.org. Réchaud, ça s'écrit R-E-C-H-O pour les personnes, si c'était pas tout à fait clair. On vous donnera bien évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous, notamment l'événement de lundi dont tu parlais tout à l'heure. On se refait une nouvelle pause musicale et on revient juste après avec Anne-Sophie qui nous partagera le bon plan de One Art. À tout de suite.
Génial, d'une nuit à la belle étoile. commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission Ça commence par nous, je laisse tout de suite le micro à Anne-Sophie du média positif One Art. Salut Anne-Sophie.
Salut Julien.
Aujourd'hui, quelle est l'initiative dont tu vas nous parler ?
Je vais vous parler du restaurant Il Refettorio, qui vient tout juste d'ouvrir dans la crypte de la Madeleine, qui sert des repas gastronomiques aux plus défavorisés.
Et qui est à l'initiative de ce projet ?
Le fabuleux Massimo Bottura, le chef italien 3 fois étoilé de Modène en Italie, qui est à l'initiative de son 4e restaurant solidaire après celui de Milan, Rio et Londres. Il a décidé d'ouvrir à Paris sous l'impulsion de l'artiste photographe JR, connu pour ses immenses portraits imprimés en noir et blanc, placardés dans les lieux publics. Massimo a trouvé des investisseurs privés tels que Voyageurs du Monde, Accor Hotel, Carrefour, qui fournissent aussi leur surplus de nourriture et a réussi à mobiliser des grands chefs qui sont invités à cuisiner. Alain Ducasse, Yannick Aliéno, Michel Troisgros, Alain Passard ont déjà répondu présents et d'autres encore car les chefs changent tous les jours. Massimo dit vouloir donner l'exemple, inciter les gens à ne plus rien jeter en leur montrant, grâce à la créativité des chefs cuisiniers, que même du pain rassis ou des légumes trop mûrs peuvent donner une recette succulente.
Et comment ça se fait qu'ils s'impliquent tous ces chefs ? C'est quoi leur challenge ?
Alors leur challenge, c'est composer un repas sans rien acheter, en découvrant au dernier moment les produits qu'ils vont pouvoir cuisiner.
Tout ça dans un lieu unique, j'ai l'impression, non ?
Oui, alors nous sommes dans le foyer de la Madeleine, sous l'église. L'endroit a été complètement refait à neuf et décoré en un mois seulement, grâce à des matériaux recyclés, table en bois clair, lumière tamisée et sculpture en forme de nuages signée de l'artiste JR, composent la décoration pour faire converger éthique et esthétique.
Et qui peut rentrer dans ce restaurant ? Qui peut en bénéficier ?
Alors, ce sont les associations partenaires, Singa, représentée aujourd'hui par Ola, Emmaüs Solidarité ou encore le centre d'hébergement d'urgence Aurore qui identifie les convives en leur délivrant une carte au mois. Les bénéficiaires sont donc des personnes vivant dans la rue ou pas, des personnes dans le besoin, des réfugiés. Il est important que toutes ces convives se mélangent parce que le but de Massimo en ouvrant ses restaurants, c'est combattre l'isolement social avec une approche holistique en offrant de la nourriture pour le corps, l'âme et l'esprit. L'échange entre les convives, entre les invités, entre eux et avec les bénévoles, est donc capital.
Et les fameux bénévoles qui ?
Alors, leur rôle, le service du réfectorio s'appuie sur quelques salariés, les chefs et les bénévoles. Et comme nous avons pour vocation dans l'émission de donner des moyens d'action concrètes, et le rôle de One Art étant de vous y présenter des bons plans pour être actif, je voulais terminer cette chronique en évoquant l'expérience de bénévole, car j'y ai participé ainsi, en charge du service et de l'accueil, et l'expérience est particulièrement enrichissante.
Qu'est-ce que tu as fait ? Vas-y, raconte-nous.
Alors, je me suis occupée du service à table. Pour le service, on vous demande d'être présent à 17h. Vous êtes bien évidemment accueillis et briefés. On vous fait visiter les cuisines, vous faites connaissance avec le chef du soir et son équipe. Puis rapidement, vous dressez les tables, car le temps est compté. Les invités arrivent à 18h30. Et comme avant un événement accueillant des célébrités ou des VIP, l'effervescence avant l'ouverture des portes est palpable. Tout doit être parfait pour l'accueil des bénéficiaires traités en VIP. Des bénévoles se chargent de l'accueil, d'autres du vestiaire. Et enfin, ceux qui ont en charge le service à table doivent inciter les personnes à se mélanger. Le service commence dès les premiers arrivants. Leur apporter les plats est l'occasion d'échanger avec eux. Et certains ont vraiment besoin de parler. Sur fond musical, l'ambiance est très bonne. Les derniers arrivants sont accueillis vers 19h30. Généralement, tout le monde commence à partir vers 20h. On débarrasse alors le tout et on s'attable entre bénévoles si on a la chance d'avoir des restes.
Et pour ceux qui s'intéressent, comment on fait pour participer concrètement à l'aventure ?
On peut s'inscrire directement sur le site du Refettorio Paris en tant que bénévole ponctuel, donc soit pour l'aide en cuisine, là c'est de 15 à 17 heures, soit pour l'accueil ou le service, comme je viens de le décrire.
Et pour ceux qui ont envie d'en savoir plus, moi je vous invite à voir la vie du restaurant en images sur oneart.fr grâce à une vidéo que vous avez réalisée.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Allez, dernière ligne droite dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, hein, comme vous l'avez entendu, on parlait de comment faciliter l'accueil des réfugiés en France. C'est le moment tant attendu du débrief. Et moi, pour lancer cet échange, je voulais vous demander à tous autour de cette table. Bon, on a déjà donné plein de pistes. On a parlé de formidables associations dans lesquelles on peut s'impliquer. Pour ceux qui sont pas prêts à franchir le pas, est-ce qu'il y a d'autres manières d'agir au quotidien ? Est-ce que vous avez des pistes, des expériences à nous partager ?
Je vais commencer, je vais être très brève et on mettra les liens sur le groupe, ça commence par nous. Mais il y a plein d'initiatives qui existent, j'en citerai quelques-unes. Il y a les cuistots migrateurs aussi, ce sont des traiteurs auxquels on peut faire appel qui emploient des réfugiés cuisiniers. Il y a l'association Nomade qui organise des ateliers entre des artisans réfugiés et des Français pour partager, pour qu'il y ait ce lien social. Il y a Ground Control, vous avez un food truck du Refugee Food Festival qui met en avant encore une fois là des réfugiés qui cuisinent pour et qui partagent leur talent. Voilà, il y a plein de petites initiatives comme ça qui sans forcément s'engager au quotidien sur le terrain, parce que parfois ça peut faire peur, on peut créer du lien.
Tout simple, hein. Donc du coup le simple fait d'aller consommer les produits qui sont développés par ces associations, tu parlais notamment du Refugee Food Festival, voilà, ils mettent à disposition des plats succulents, ils ont un projet d'intégration qui est fort, et ben voilà, ils ont besoin de clients, être client c'est déjà agir. Je regarde les invités, est-ce que vous avez des actions un peu, des bons plans à partager, Laura, vas-y.
Bah, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez. Voilà, effectivement, quand on n'a pas soit les moyens financiers, soit du temps, on peut voilà aller soutenir. Voilà, moi je parlais tout à l'heure en ce qui concerne le réchaud de la soirée théâtre caritatif qu'on fait lundi. C'est une façon de soutenir une association. Le Ground Control, allez manger quand le Refugee Food Festival est dans votre ville. Voilà, allez. Ne serait-ce que pour soutenir, mais aussi pour découvrir. C'est de la curiosité avant tout aussi.
Et c'est comme ça aussi qu'on commence à tirer un peu cette bobine en ouvrant un peu ses gourdes et se disant « Attends, mais il y a plein de trucs qui se passent » et en découvrant les formidables opportunités qui sont créées. Gaëlle, toi, tu as d'autres pistes. Tu veux nous partager des idées, des manières de s'intégrer, d'agir au quotidien?
Si des personnes veulent commencer à accueillir, il y a moyen de venir sur le terrain, en fait, tout simplement, via plein d'associations, Utopia, mais il n'y a pas qu'elle, Elle Préfugies, l'Auberge des Migrants, il y a beaucoup d'associations aussi à Calais, qui viennent à Paris, qui viennent en aide aux réfugiés partout en France. Il y a aussi, si on a un bout de canapé, un lit, il y a moyen d'ouvrir sa porte, en fait, ne serait-ce que pour une nuit, pour que des enfants ou des femmes puissent se reposer, ne serait-ce qu'une nuit. Il y a toujours possibilité d'agir, même aussi financièrement, pour soutenir toutes les assos tous les jours qui leur viennent en aide.
Oui, il y a des gens qui font du couchsurfing déjà pour les voyageurs du monde entier, donc pourquoi ne pas ouvrir et prêter son canapé, hein, c'est ce que tu dis.
Bah, juste Utopia, qui est une toute petite asso, en fait. L'année dernière, on a quand même offert 17 000 nuitées d'urgence pour les personnes qui vivent à la rue.
17 000, hein, 17 000, ouais. Ouais.
Donc c'est une équipe de 15 personnes, en fait, qui fait ça. Et ils sont capables d'offrir jusqu'à 17 000 unités. Donc si chacun s'y met un petit peu, en fait, il n'y a plus personne qui dormirait à la rue.
Et j'en profite juste pour partager cette expérience que j'ai eue moi avec Utopia. En l'occurrence, on dit « Ah oui, mais rejoindre une association, des fois, ça fait un peu peur ». Je suis passé par un service d'une autre association, ça s'appelle Benenova. C'est des missions courtes. Moi, c'était 3 heures, c'était très concret. Je me suis inscrit sur Internet. Je savais où je devais aller, j'avais une personne référente. Il n'y a pas ce sentiment de devoir s'engager pendant des mois et des mois. Et ça, rien que ça, de mettre un tout petit peu les pieds sur le terrain, ça fait du bien. Et en tout cas, je voulais vous dire, voilà, passer ce message de « N'ayez pas peur », même si de temps en temps, vous dites, moi, c'est trop contraignant. Il y a ce petit premier pas qui est possible d'être fait. Laura, vas-y, tu veux enchaîner.
Bah, je voulais justement, voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est possible d'être bénévole sans forcément aller sur le terrain et donner énormément de temps. Les associations, la plupart du temps, ont très peu de moyens et ont besoin de beaucoup de compétences, par contre. Des compétences en gestion, des compétences en logistique, selon l'action de l'association. Des compétences en communication, en graphisme, en tout un tas de choses. Et donc ça peut être, voilà, les associations peuvent avoir besoin de choses de façon très ponctuelle. Voilà, un graphiste qui va donner 2 heures juste pour faire un flyer ou une affiche, quelqu'un qui va pouvoir donner peut-être, voilà, une demi-journée pour aller tracter, pour des, voilà, ça peut être des ça peut aussi être du bénévolat de compétences qui vous permet de faire une bonne action, même peut-être en restant chez vous, en faisant un peu de compta, parce que voilà, les assos, elles ont aussi de la compta à faire.
Dans son domaine de compétences, voilà, tout simplement. Comme ça, on ne sort pas de sa zone de confort, mais on fait quelque chose qui aide vraiment.
C'est là où, en fait, tout le monde peut aider une asso, parce que chacun a des compétences. Et ouais, dans une asso, il y a besoin de toutes les compétences.
Ça le mérite d'être clair. Où le mot de la fin pour vous?
Je constate qu'il y a de plus en plus des initiatives variées. Et pour les personnes, et c'est très, parfois c'est très ponctuel, c'est-à-dire que par exemple, si vous êtes informaticien, il y a une association qui s'appelle Tech Fujis qui aide le développement des projets en lien avec la technologie et l'informatique menés par les personnes réfugiées ou pour la question des réfugiés. Ou alors il y a WeIntegrate qui est une association créée par des étudiants d'ESSEC qui accompagne les personnes réfugiées pour qu'ils trouvent un job, un boulot intéressant et en lien avec leurs compétences qui donnent, grâce aux liens qu'ils ont, ces étudiants, dans leurs écoles. Et nous, chez Singer, ce qu'on fait, on a une activité très simple, c'est-à-dire devenir ami, buddy, d'une personne réfugiée. Il y a un programme qui s'appelle Buddy, c'est-à-dire que vous allez vous inscrire sur le site de Singer. Et selon votre profil, vous trouvez, on vous met en contact avec une personne réfugiée. Vous pouvez vous voir une fois par semaine, une fois par mois, pour parler, pour échanger et pour avoir des expériences réciproques, tout en sachant qu'on est sur le pied d'égalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un bénévole bénéficié, nous sommes des amis. Et ça, c'est quelque chose qui m'a donné envie. Moi, j'étais un incubé, mais l'une des rares associations dans lesquelles je me suis senti à l'aise, c'était Singal. Aujourd'hui, c'est différent, mais je parle par rapport à il y a 8 ans, parce que nous sommes tous des amis et il n'y a pas bénévoles et bénéficiaires. Et ça, c'est une ambiance très valorisante pour moi et très, du coup, qui me donne l'énergie à travailler. Aujourd'hui, je suis dans le conseil d'administration de Singa pour aider tout le monde.
Mais ça sera le mot de la fin. Merci, Roux. C'est vraiment l'idée de dire que peut-être qu'aussi on peut commencer par considérer les personnes qu'on accueille comme des personnes tout à fait normales et de les traiter comme des personnes tout à fait normales. Merci beaucoup à tous pour cette émission. Moi, j'avoue que c'était une émission qui était forte en émotion et vous l'avez sans doute senti. Je redonne les noms des personnes qui sont intervenues. On a eu Gaël Manzi d'Utopia 56, on a eu Roula Chassava de Singa et Laura Duret pour le Réchaud. Je remercie bien évidemment notre équipe de choc avec Anne-Sophie Douanart qui nous a donné son bon plan, Hélène Dédény pour son Focus Zéro Déchet, Raphaël et Fabrice pour Rage.
Ça commence par nous.
Voilà, je suis très heureux d'avoir pu un peu mettre en avant à mon niveau toutes ces initiatives qui marchent et ces belles histoires d'intégration qui permettent de rééquilibrer un peu la vision que nous avons sur l'accueil des réfugiés en France. Bien évidemment, il y a encore du boulot à faire dans ce domaine, mais au moins, on sait qu'il y a des projets qui vont dans le bon sens et dont on peut s'inspirer pour aller encore plus loin. Voilà. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le groupe Facebook « Ça commence par nous » sur rage.fr, mais également sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera de comment faire du sport. On peut aussi permettre de changer le monde. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur Rage. Nous, rendez-vous samedi prochain, 13h. Salut !